Jean Marielle, le cliché. Blagerdin, effondré dans un fauteuil, continuait de gémir. « Dieu mettez-moi, ma chère femme, poursuivit-il, que c'est toi qui me vaut toutes ces mésaventures. Car sans ton assistance, je n'aurais jamais dû me présenter à la députation. J'ai réussi, il est vrai, dans le commerce des flanelles, mais les affaires ne m'ont jamais laissé le temps de m'occuper de politique. Crois-tu que le buffle, ton concurrent, bien que député, sortant, en sache plus long que toi, répartit paisiblement la petite madame Lajodin, sans lever les yeux de sa broderie, à laquelle, depuis des mois, elle semblait travailler avec un intérêt toujours croissant. « Mais le buffle, ma chère, se récria Lajodin, a pour lui le bénéfice d'une situation acquise, et il jouit d'autre part d'une réputation d'orateur que peu de gens lui contestent. Dans tout le cours de cette tournée électorale, tandis que j'allais de réunion en réunion, conspué et insulté par les basses, malgré tous mes efforts, et toute ma bonne volonté, le buffle n'avait qu'à paraître et qu'à servir sur un bon ton véhément quelques-unes de ces périodes retentissantes dont il a le secret, pour entendre s'élever de toutes parts les acclamations. Oh, c'est bien fini, et je renonce à une lutte dont l'issue ne saurait être douteuse. Le météore de Nogent-sur-Oise apprendra demain au lecteur le désistement de Michel Lajardin. Mais tu as tort de manquer de sang-froid, riposta Madame Lajardin. Ce n'est pas sans réfléchir que je t'ai conseillé d'engager la lutte. Tu n'es pas plus bête que le buffle, et tu as plus d'allure. Un député sortant a beaucoup d'ennemis, et un homme neuf, s'il sait ne pas se compromettre en donnant trop carrément son avis sur des projets de loi, que d'ailleurs il n'a pas besoin de connaître, est en fort bonne posture. Mais tu es très imprudent. Et si nous ne sommes pas députés, ce sera beaucoup par ta faute. Ah, si je pouvais leur parler à ta place, demain à tous ces braves électeurs de Nogent-sur-Oise, je te montrerais comment on se fait acclamer par les gens de tous les partis. C'est que moi, tu sais, j'ai étudié les discours de Le Buffle. J'en ai même rédigé d'analogues. Et Madame Lajardin, ayant déposé sa broderie, sortait de sa table à ouvrage un vaste papier qu'elle déplia. Voici, dit-elle, le discours modèle, celui qui peut servir à peu près indéfiniment, en modifiant de temps à autre les adjectifs. Michel Lajodin, un peu abasourdi, prêta l'oreille. « Chers concitoyens, commença Madame Lajodin. « Oh, monsieur, fit-elle, observez, un parfum d'aristocratie qui indispose l'ouvrier. » Et citoyen a l'air un peu révolutionnaire. Concitoyen ne peut incommoder personne. Et elle continua. Dans la vie des peuples, comme dans celle des individus, il y a des périodes critiques où le sort de l'avenir se trouve engagé. Nous sommes présentement à un tournant de l'histoire. Bon, c'est du alimentia, constata l'ange nain. Mais cela ne fait rien, allez, continue. Madame Langevin toussa légèrement et reprit d'un ton solennel. Le peuple a besoin d'une confiance absolue dans ses représentants. Il veut que ceux-ci se sentent pénétrés de la gravité de leur mission. Mais pour nous, nous saurions avoir d'autre but que la prospérité de notre pays. Nous voulons un gouvernement respectueux de la liberté de chacun et sachant sans faiblesse faire respecter les lois. Nous voulons la France unie au-dedans et respectée au-dehors. Nous saurons réaliser toutes les réformes compatible avec le respect du travail et de la propriété. Nous saurons, tout en accomplissant les grands travaux qui augmenteront le prestige de notre pays, diminuer les charges qui pèsent sur tous, sur le commerçant comme sur l'industriel, sur l'ouvrier si intéressant des villes comme sur le travailleur non moins intéressant des campagnes. Nous saurons développer la solidarité, accroître la fraternité et la justice, tout en respectant la liberté. Qu'en dis-tu ? Interrogea Madame Langevin. Cet idiot, conclut le candidat. Tout cela a trop servi. Et prenant son chapeau, il déclara « Allez, je porte mon article au météore. »« Mais tu es stupide de t'en te presser, » soupira la petite madame Lajardin. « Je t'en prie, réfléchis un jour encore et médite ceci, » ajouta-t-elle en glissant le discours dans la poche de son mari. Lajardin suivit la grande rue jusqu'au théâtre municipal. Et là, il aperçut un rassemblement, et il se souvint que le buffle avait convoqué les électeurs du chef-lieu pour rendre compte de son mandat, et que lui, l'adversaire, était invité à prendre la parole. Il songea à s'esquiver par une rue latérale, mais il ne voulait pas avoir l'air de fuir. Et déjà, des groupes l'avaient aperçu, qui se montraient de loin le nouveau candidat. Il résolut de continuer son chemin, l'air digne, jusqu'au bureau du météore. Il avait compté sans son parti. Recruté parmi les ennemis personnels de Le Buffle, c'est-à-dire parmi ceux qui n'avaient pas eu leur part dans l'attribution des petits emplois et des rubans de toutes couleurs, faites pendant la dernière législature. Ce parti ne pouvait admettre que l'homme en qui ils avaient mis leur désormais leur espoir, se déroba. Langevin disparut au milieu de la troupe d'électeurs qui, sans tenir compte de sa résistance, l'entraînait vers la salle du théâtre. Le buffle achevait son discours. Il en avait soigné la meilleure raison pour laquelle il avait réservé son assortiment le plus choisi d'épithètes sonores et de généralités pompeuses. Mais les habits de l'argedin ne désarmaient pas. Par leurs efforts, une trentaine de chaises entassées en équilibre instable dans le couloir des quatrièmes galeries s'effondrèrent dans l'escalier avec un fracas de tremblement de terre, tandis que un œuf et quelques tomates s'écrasaient sur la scène au pied de l'orateur. Celui-ci avait manqué son effet. Ses dernières paroles, comme celles de Louis XVI, se perdirent dans le bruit. L'argedin se trouva, sans savoir comment, installé au bureau, devant le tapis vert, une carafe et un verre d'eau sucrée. Il déplia son papier et avec résolution, il lut « Chers concitoyens, dans la vie des peuples comme dans celle des individus, c'était la boutade de sa femme. » Il voulut s'arrêter, mais il comprit qu'il lui fallait aller jusqu'au bout et payer l'audace. Essayant d'affermir sa voix, il continua. Et contre son attente, des murmures approbateurs se levaient. Il sentit renaître sa confiance, et avec des gestes de superbe assurance et un accent de profonde conviction, il lut jusqu'au bas de la page. En vain, les partisans de Le Buffle essayèrent-ils de réagir contre l'effet produit, mais tout fut inutile. La péroraison fut saluée par des cris d'enthousiastes. L'argedin, désormais, était l'orateur du chef-lieu. Sa candidature fut acclamée. Le lendemain, un article du Météore, non moins éloquent que le discours de la veille, acheva de retourner les esprits de l'arrondissement de Nogent-sur-Oise. L'Argedin fut élu avec une majorité de 4000 voix. Il siège aujourd'hui sur les bancs du centre-gauche, d'où sa voix, bien timbrée, s'élève un certain jour pour appeler aux élus de la France les grandes idées que doivent dominer leurs démonstrations, leurs délibérations. Et comme, en dehors de ces interruptions formulées en termes suffisamment généraux pour allier tous les partis, l'Argedin a su désorienter par son attitude et ses votes tout ce qui eussent voulu faire de lui un méprisable sectaire. Il a pu se concilier l'admiration et la sympathie de l'arrondissement de Nogent-sur-Oise, et acquérir, avec l'espoir de devenir un jour ministre, la certitude de sa réélection.